Affinité élective, une émission de Francesca Isidori. La moindre des choses serait de vous dire qu'il est philosophe, écrivain, photographe, qu'il a tourné des films et dans des films, Minelli et Godard, qui dit mieux, ancien bassiste par-dessus le marché dans un groupe appelé Les Humbles, tout ça dans le désordre, son désordre à lui, le désordre des tranquilles, mine de rien, avec l'allégresse des naufragés, à l'écoute, au bord, de ce qui est voué au silence, à la désaffection, à l'inexistence, bribe et filament d'une expérience sans destination d'un homme de nulle part. Les affinités électives de Jean-Paul Curnier. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. Beatles, avec un peu de chance, ça doit être 1966, Jean-Paul Curnier. C'est vous, l'homme de nulle part, Nowhere Man?
Ça serait évidemment pas à moi de le dire. Oui, ça doit être ça, oui. En tout cas, la façon qu'a eu cette chanson de me toucher, bien d'autres évidemment, des Beatles, et surtout le disque Rubber Soul, qui a été une période comme ça importante dans mon adolescence ou ma préadolescence, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte par la suite. C'est-à-dire que les véritables affinités avec ces chansons-là, d'autres sans doute qu'on écoutera ou d'autres lectures, c'est par la suite qu'on s'en rend compte, et notamment maintenant, enfin depuis peu de temps, plus que des affinités, des espèces de passerelles absolues, des choses communes. Là voilà, donc oui, effectivement, No Woman, mais en même temps, ce No Woman est né quelque part, bien entendu, comme tous les autres.
On va savoir très vite où vous êtes né, vous. Mais avant, et en guise d'introduction à la séance de photos qu'on va avoir tout de suite, je voudrais lire quelques lignes d'un texte de vous, un poème. C'est comme une image, mais qui viendrait de loin. Ils sont deux, côte à côte, à côté d'elle, c'est moi. Elle, je ne l'ai jamais vue, moi, je me reconnais. Mais de tout cela, je ne me souviens pas. Cela doit se passer loin d'ici ou plus tard. Tout autour, ce sont des plaines immenses. Une lumière franche fait scintiller le givre. Ils se regardent et rient. Ils ont l'air d'être intimes. Je sais qu'ailleurs, ensemble, nous buvons de la vodka. C'est gin, vodka, ailleurs, etc. Chanson photographique. Jean-Paul Curnier, les photos que vous avez apportées, vous les avez cachées là, je ne les vois plus.
Oui.
Je ne les ai pas vues d'ailleurs, voilà, je les découvre.
Les photographies, ce sont des êtres timides, il ne faut pas trop les exposer longtemps. Alors, voilà, elles sont là, oui. Là, il y en a une tout petite, mais là on voit une photographie de classe, donc de ma classe, je suis au lycée à l'époque, même si on est en 6e ou en 5e, on est au lycée, puisqu'il n'y a pas la distinction entre collège et lycée. On est donc dans l'année scolaire 1962-1963. C'est au lycée Frédéric Mistral, à Arles. Et voilà, je suis là.
Attends, il faut que je devine, là, au milieu
non.
de tout ça. Oh, c'est pas facile. Celui-ci ? Où donc ?
Là.
Là. Et alors, comment vous vous voyez, là, dans cette photo ?
Comment je me vois ? C'est difficile, parce que je ne me ressemble plus beaucoup, avec tout ce temps passé. Mais j'ai la sympathie pour ce...
ouais. Vous avez gardé de la sympathie pour ce garçon ?
Oui, c'est un tranquille, oui. Alors donc, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il y a eu une première sixième... où j'ai vraiment rien compris à ce que c'était que le contrat scolaire, quoi. Et donc, j'ai été obligé de doubler parce que je ne suis vraiment pas du tout... Je pense que c'est un endroit où on est heureux une fois qu'on a quitté l'école communale et qu'on entre au lycée, donc à l'époque. Je rêve ça comme quelque chose de tout à fait joyeux, donc dans une candeur qui est quand même assez déplacée. Et donc, on considère que ce n'est pas possible que je continue de cette façon. Je parle, je ris, j'amuse les autres, mais... pas pour distraire absolument, c'est que je découvre une façon d'être heureux.
Parce que là, vous avez l'air très sage quand même.
Oui, un peu sous le choc quand même, et un regard un peu évasif, effectivement, un peu intérieur comme ça, ou rêveur, je ne sais pas, on ne saurait pas trop dire. Mais il se passe plein de choses, là, on est en 62-63, la guerre d'Algérie vient de prendre fin. Ça ne veut pas dire que je m'occupe de politique à cette époque-là, mais mon père, oui, mes voisins, ma famille, tout le monde, et puis il y a eu des attentats à Arles, il y a eu pas mal de choses... Et je pense qu'on a un peu sur le visage ce côté de jeunes gens qui vont être très turbulents par la suite, mais qui encore sont pris dans des histoires qui sont difficiles à comprendre. Quoi.
Qui sont encore intimidés ?
Oui, ils sont intimidés parce que tous les parents de ces jeunes gens qui sont là avec moi, qui ont mon âge, qui ont donc 11 ans, les parents ont connu les privations de la guerre, ont connu les bombardements, la difficulté de reconstruction de la ville... Bon, pratiquement, on n'est pas très très loin, hein. Je veux dire, on est à 16 ans de l'armistice, quoi. C'est pas énorme, hein. C'est très peu, donc c'est pas encore totalement reconstruit. Puis bon, je sais pas, les parents, ils disent qu'ils ont beaucoup souffert, qu'ils ont mangé des rutabaga, tout ça. Alors évidemment, on n'ose pas tout à fait encore dire qu'on existe avec, je dirais pas la violence, mais c'est pas le mot, avec l'intempérance qui sera la nôtre très très vite, dans les mois qui vont suivre, là. C'est-à-dire quand nos grands frères apparaîtront ailleurs dans le monde et se feront entendre. Quoi. Et donc, nous désintimiderons de cette chose parce qu'on porte cette idée qu'on est quand même des rescapés, des enfants de rescapés, d'une époque rescapée, de tout un tas de choses, d'un pays rescapé. Puis d'un coup, autre chose va se lever. Et évidemment, on le vivra avec l'excès que vivent tous les gens qui veulent fuir un endroit où on leur demande d'être sages et dans le respect des morts, quoi.
Thank you. Vincent Dindy, symphonie sur un chant Cévenol, Jean-Paul Curnier.
C'est les dimanches de mon enfance. C'est une émission qui s'appelait, je crois, Bonjour Monsieur le Maire. Et ce qui est caractéristique dans cette musique et dans le fait qu'elle servait donc de musique d'indicatif
à cette émission,
c'est que c'est vraiment une confiance absolue dans l'avenir, quoi. Dans les machines, dans le progrès, dans les relations internationales, enfin, on sort de la guerre, quoi. Et donc, cette émission qui s'appelle Bonjour Monsieur le Maire raconte des choses très simples. Les engrais, combien de trouver, est-ce que c'est mieux, la potasse, tout ça. Et j'écoute ça le dimanche matin et c'est prodigieux. Enfin, en fait, on écoute la symphonie d'une France qui a l'air de s'être promis le bonheur, quoi. Mais en même temps, c'est ça, on l'entend dans la musique, ça. On entend ce qu'est la France en 1900. Disons de 54, 56 jusqu'à 60, quoi, à peu près.
Alors, l'homme de nulle part que vous êtes, il vient quand même d'un lieu qui s'appelle Arles, et du delta du Rhône.
C'est important, ça, du delta du Rhône, oui. Parce qu'Arles, c'est évidemment pas seulement une ville, c'est un pays, comme disent d'autres. Mais c'est vrai, d'une certaine façon, enfin, c'est une situation... de ville au sommet du delta du Rhône, donc avec d'une part la Croix, d'un côté une plaine caillouteuse sèche, de l'autre côté la Camargue, enfin l'effondrement du Rhône dans la mer, du ciel dans la terre, enfin tout ça qui se fond, c'est ça, une sorte de Finistère, quoi. Avec des bateaux, avec des choses lourdes, industrielles, mais aussi une vie sauvage, des chevaux, enfin tout ce qu'on sait sur la Camargue. Évidemment, dans ces années-là, c'était un petit peu plus archaïque et pas du tout touristique, quoi. Voilà.
Jean-Paul Curnier, vous aviez quel âge quand Minelli vient tourner Van Gogh avec Kirk Douglas et où vous êtes embauché comme figurant?
Je dois avoir environ 5 ans, je pense.
Et alors, figurant pour figurer quoi?
Pour figurer des enfants qui protestent et se moquent du peintre fou.
Ah, ça vous plaisait, ça, comme rôle?
Non, mais on n'était pas au courant. Alors... Oui, comme ça se passe, on n'est toujours pas au courant. Il y a toujours une histoire de « on n'était pas au courant ». Je suis tout petit, on n'est pas nombreux d'enfants dans ce quartier-là. C'est un quartier plutôt pauvre de la périphérie d'Arles. Enfin, c'est pas tout à fait la campagne encore, mais enfin, il y a une alternance de petits bouts de vignes, de tout petits jardins, de machin. Il y a là un petit moulin, parce qu'il y a beaucoup de moulins à Arles, et ça s'appelle d'ailleurs le quartier des Moulerès, et c'est là que je suis né. Et dans ce petit moulin, Van Gogh, effectivement, a peint des tableaux. Et donc, Kirk Douglas, qui jouait le rôle de Van Gogh, devait laisser tomber ses tableaux dans l'escalier du petit moulin, qui était juste à côté de chez moi. Et alors, donc, est arrivée une sorte de monde tout à fait étrange, tout à fait nouveau, enfin, que jamais vu, quoi. Parce que d'abord, j'étais jamais allé au cinéma même. Donc, j'ai vu le cinéma En Marche, la métro Goldwyn-Mayer, avant d'avoir vu un film. Et c'était étrange parce que... Il y avait des rails, il y avait des caméras sur les rails, il y avait d'énormes projecteurs gigantesques, blancs, en plein jour. Il y avait beaucoup de monde, ils parlaient évidemment anglais, mais même ça, je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. L'anglais, quoi, je veux dire, à l'oreille, on ne savait pas non plus ce que c'était. Bon, et alors on a réservé quelques enfants du quartier, dont moi, et on nous a donné à manger des sardines à l'huile. Il faut dire qu'on était dans ce petit pays, sans doute, comme des... comme Rossellini quand il allait filmer dans les quartiers pauvres, quoi. Et la métro Goldwyn-Mayer avait trouvé que c'était plutôt bien de nous offrir des sardines à l'huile, une boîte de sardines à l'huile. On était contents, d'ailleurs. Et on avait eu un mot spécial de tout ça pour ne pas manquer l'école. C'était ma première année d'école. Je venais juste de rentrer. Je devais avoir 5 ans, effectivement, et demi. Et donc, il y avait cette histoire à laquelle on ne comprenait rien. On devait crier. On devait juste crier. Bon. Ça a duré très longtemps, tout ça. Et puis, à un moment, il s'est mis à pleuvoir et il y a une annonce faite en anglais, vous ne comprenez pas, puis elle a été traduite en français et ça expliquait que tout risquait d'exploser, les grands projecteurs de blancs sur les rails. Et c'était extrêmement émouvant, c'était beau, c'était grandiose que des choses pareilles puissent exploser. Bon, voilà. Mais Van Gogh, je connaissais un peu parce que j'étais né dans le patrimoine de Van Gogh, parce que dans mon quartier, il y avait tous les endroits où... Et d'ailleurs, ça me revient à l'esprit, mais... Une fois, parce qu'on avait, enfin, mon père et ma mère louaient un tout petit maset, enfin quelque chose où on allait le samedi et le dimanche, et pendant les vacances, à 7-8 km d'Arles. Et Là, une fois, on a vu arriver des gens, pas tout à fait comme semblables à nous, enfin pas habillés pareil surtout. Ils avaient des chemises avec d'énormes gros carreaux dessus. On n'avait non plus jamais vu ces choses-là. Et des pantalons bleus en toile, que maintenant on connaît sous forme de jeans. Et ils sont venus, ils avaient énormément de documents, des choses comme ça. Et ils ne parlaient qu'anglais, enfin avec l'accent américain. Et alors on ne comprenait rien à tout ça. Et on était très gentils, on les a accueillis, on est restés. On était émerveillés de voir des gens pareils. Et ils ont fini par nous expliquer qu'ils faisaient le repérage de l'endroit où Van Gogh avait peint le tableau des moissons. Je trouvais que c'était là, plus ou moins à quelques dizaines de mètres près. Donc je suis resté avec eux pendant 3 jours, assis, à écouter une langue que je ne comprenais pas et à regarder le point de vue depuis lequel avait été peint le tableau des moissons. Et voilà.
Bon, Jean-Paul Curnier, donc une carrière au cinéma qui commence à 5 ans, qui a eu une suite, hein, on en parlera peut-être tout à l'heure, une suite très récente, puisque vous avez tourné dans le dernier film de Godard, qui n'est pas encore sorti, on y reviendra. Mais Arles, c'est aussi Dante. Alors, j'avoue, je suis prise en défaut, mais je ne sais pas dans quel champ de l'enfer, c'est bien ça, hein, Dante parle d'Arles.
Alors, il faut que je précise une chose. Mon amour pour Dante m'a, je ne peux pas dire fascination, c'est une sorte d'intimité profonde mentale. Je n'ai jamais très bien compris ça. Je l'ai tout simplement étudié en italien, en classe d'italien. Et j'ai choisi l'italien tout simplement parce que dans mon quartier, il y avait beaucoup d'Italiens et que je les aimais bien et que c'était comme ça. Je veux dire, c'était une bonne raison. Bon. Et puis, bon, il n'était pas trop question de prendre l'allemand à cette époque-là. Enfin, il faut bien le dire aussi, quoi. Donc, j'ai appris l'italien. Et j'avais un professeur d'italien qui, je ne sais pas, il avait l'air exalté quand il nous faisait travailler sur Dante. Il a commencé par Dante. Et je ne sais pas, j'ai découvert, moi, une rythmique. J'ai découvert, je ne dirais pas la poésie, une musique, une musicalité profonde. Et puis, le comme de Dante, c'est vrai, et la chute. Alors ça, ce dont on parle là, c'est dans le chant numéro 9 de l'Enfer. Et c'est bien après que j'ai su qu'il y avait ça, parce que notre professeur d'italien, qui connaissait parfaitement la Divine Comédie, qui encore une fois était vraiment pour mon écriture vraiment déterminante, quoi. Ça fait partie des choses déterminantes. D'autres choses dont je parlerai peut-être tout à l'heure, mais ça oui, à cause donc de la musique, du système de la chute et du caractère indirect de la comparaison, puis d'une autre comparaison, etc., qui fait qu'on n'est jamais dans la description froide, clinique, pure. On est toujours dans une sorte d'allégorie, mais très proche. Alors, ben voilà, ça donne ça en italien. C'est dans le chant 9 de l'Enfer. Je veux dire par là que ce n'est pas très, évidemment très, très valorisant pour la ville d'Arles, mais ce qui s'y dit par la suite ne l'est pas non plus, donc autant continuer. Alors voilà. « Si come ad Arli, over Rodano stagna, si come a Pola, presso del Carnaro, ch'Italia chiude i suoi termini bagna, fanno i sepolcri, tutti luoco varo, cose facevan qui d'ogni parte, salvo che il modo vera più amaro, che tra i avelli fiamme erano sparte, per le quali eran del tutto su accesi, che ferro più non chiude vero un'arte. » Alors, je vais vous donner la traduction, mais de l'époque. Mm-hmm. Et évidemment,
c'est la traduction que vous avez élue.
Oui, la traduction que j'ai lue à l'époque, sur laquelle on travaillait, parce que celle-ci que je viens de... que j'aurais pu lire, et celle de Jacqueline Risset, qui est absolument magnifique, mais je vais lire celle qui m'a impressionné d'une certaine façon. Comme là-bas près d'Arles où le Rhône s'endort, ou bien comme à Pola, tout près du Carnaro, qui finit l'Italie et baigne ses confins, on voit de vastes champs parsemés de tombeaux. Tel on voyait partout cette immense étendue, bien que d'une façon mille fois plus horrible. Car parmi les tombeaux, des feux éparpillés les chauffaient jusqu'au point de les rendre si blancs que le fer ne les pas autant sur les enclumes. Évidemment, le tableau d'Arles là-dedans est étrange. Mais je vous ai amené quelque chose à quoi je tiens beaucoup aussi. C'est un poème de Paul Jean Toulet qui justement reprend cette image d'Arles comme champ de tombeau et à partir des Aliscans, qui ont été peints par Gauguin, qui ont été... Bon. Et il est très beau ce poème parce qu'il passe quelquefois pour précurseur du surréalisme et aussi parce que c'est un poème absolument non lyrique, purement technique. Je le lis parce qu'il est très très beau. Il s'appelle « En Arles ». Dans Arles où sont les aliscans, quand l'ombre est rouge sous les roses, éclaire le temps, prends garde à la douceur des choses, lorsque tu sens battre sans cause ton cœur trop lourd et que se taisent les colombes, parle tout bas, si c'est l'amour, au bord des tombes.
Baby, won't you walk with me? Come on, pretty baby, won't you talk with me? Come on, pretty baby, give me one more chance. Try to save our romance, slow down. Baby, now you're moving way too fast. You gotta give me a little loving, give me a little loving. Ow! If you want our love to last. Walk you home, baby, after school. Carry your books home, too. But now you got a boyfriend down the street. Baby, what you trying to do? You better slow down. Baby, now you're moving way too fast. You gotta give me a little loving, give me a little loving. Brrr, if you want our love to last.
Alors, Jean-Paul Furnier, de la musique de Dante à la musique des Beatles, Slow Down. Qu'est-ce qui s'est passé là entre Dante et les Beatles? Il y a eu un prof de musique peut-être?
Il y a eu plusieurs choses, oui. Alors, bon, il y a eu plusieurs choses. Je dois dire que. Je dois dire deux choses. D'abord, qu'évidemment, puisqu'on va parler de souvenirs de ces années qui ont globalement de. Des années d'initiation, donc 63, mettons. Ma mémoire sera forcément approximative. Et pourquoi ? Pas parce que j'ai moins de mémoire qu'un autre, mais parce que la mémoire est toujours approximative. Et comme dit saint Augustin, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent. On pense l'ancien au présent. Et c'est toujours maintenant qu'on pense. Et aussi bien l'émotion d'y penser me fera troubler. Mais voilà que c'est ça l'humain. C'est-à-dire que l'humain, sauf s'il se discipline au point de s'en tenir à la rigueur des dates, sa véritable propension, c'est de revivre au présent les choses, de confondre les dates, de confondre les jours, de superposer des strates, de les mélanger autrement. Voilà. Alors la deuxième chose, ce lien entre Dante, Slow Down, les Beatles, c'est-à-dire en fait le rock and roll, c'est, je ne sais pas, c'est un mystère. Je l'ai je ne dis pas éclairci, je l'ai un tout petit peu plus. Approché et m'en suis un peu plus familiarisé grâce à cette émission et parce qu'on devait la faire ensemble. Parce que ce n'est pas si simple, j'ai toujours su que ces mélanges, ces alchimies, sont des alchimies lentes, totalement, vraiment pas raisonnables, mais en même temps portées par des choses extrêmement puissantes. C'est-à-dire que l'aimantation qu'il y a entre, chez moi, entre, par exemple, la langue italienne, à un moment, puis la langue anglaise, comme langue étrangère, mais comme langue. Comme langue, quoi. C'est-à-dire, c'est un monde qui s'ouvre. Ce n'est pas qu'une façon de parler, c'est un autre monde de pensée qui s'ouvre, de sensibilité.
Une autre façon aussi d'approcher les objets.
Oui, les objets, les sentiments, les situations de soi, c'est-à-dire soi-même. Cette chose-là est absolument prodigieuse, quoi. Et j'ai découvert donc ça assez vite avec. Mais d'abord avec. Alors, on ne peut pas dire d'abord avec l'italien, je ne sais plus très bien ça. Je sais que l'italien, ça a été Dante, et ça a été extrêmement important après. Pour moi, par la suite. Mais l'anglais, ça a été effectivement par le rock'n'roll. J'étais nul en anglais, comme beaucoup d'élèves de l'époque, surtout nés en Provence, qui n'ont pas une facilité particulière pour les langues anglo-saxonnes. Et ça a été une telle révélation, et ça a été une révélation double, quoi. Ça a été le rock'n'roll et Bob Dylan. Et bon, alors ça, il faudra en parler plus longuement parce que. Comment dire ? Parce qu'on a entendu tout à l'heure la musique de Vincent d'Indy. C'est-à-dire que dans la cuisine, où j'habite un endroit qui est sans, mais comme beaucoup de gens à l'époque, hein, je veux dire, et qui est sans confort. On n'a pas de salle de bain, on a rien du tout, et on n'a pas de chauffage non plus. Donc il y a des hivers comme toujours. Et ça se passe dans une cuisine parce qu'on n'a pas non plus de véritable séjour. Mais on est bien. Puis il y a des satellites qui commencent à être envoyés. Enfin, et tout ça, ça a l'allure de la vie. Voilà. En tout cas, je ne sais pas comment pourrait être autrement la vie à cette époque-là. Elle est comme ça. Et elle a l'air plutôt bien. Y a cette histoire de la guerre froide. Je ne dirais pas qu'on a peur, qu'on n'a pas peur. Je ne sais pas. Je sais qu'on entend les menaces. Et il y a deux façons de faire. Soit laisser tout ça aux grands, c'est-à-dire nous, on est tout petits. On est tout petits, je veux dire, on a quand même l'âge de se révolter, on a 12 ans. Etc. Soit on laisse ça donc, à ce dont on parle à la radio, les partis politiques, les machins et tout. Soit on se met à parler, ce qui est vraiment absurde. Que des jeunes gens de cet âge parlent, c'est absurde. Et donc, on a deux choses. Il y a une musique que j'entends à la radio, donc par exemple, qui est Slow Down, par les Beatles. Ça sera, je pense, je ne veux pas trop intervertir les dates, mais Slow Down, ça doit être de 63, à peu près. Et j'entends ça à la radio, et c'est prodigieux. Cette musique est exactement le rythme qui s'est installé en moi et que je ne connais pas. Et donc, je l'épouse tout de suite. Et je sais à partir de ce moment-là que ma vie aura à faire avec la musique. Alors, je ne sais pas si je vais être musicien ou pas, je n'ai rien appris de la musique, il n'y a pas vraiment de musicien dans la famille, mais ça ne se pose pas comme question, c'est tout de suite immédiat. Et ça sera très, très important. Mais on s'aperçoit aussi que cette musique charrie ce que j'appelle les grands frères, c'est-à-dire donc des gens qui ont 7, 8 ans de plus que nous et qui osent parler, de dire des choses comme ça incroyables. Alors, je ne dis pas les paroles de Slow Down, mais les paroles, par exemple, des Beatles sont des choses extrêmement incroyables. On n'avait jamais entendu parler des jeunes gens si haut et si fort comme ça pour dire des choses très simples. Love me do, I want to hold your hand, n'importe. Mais après, ils diront des choses avec les Rolling Stones beaucoup plus hard. Mais que des jeunes gens se mettent à parler comme ça. Et surtout avec le grand frère, Bob Dylan, c'est-à-dire celui qu'on entend à la radio, quoi. Et immédiatement, c'est comme, je ne sais pas, c'est vraiment une drôle d'impression. Comment résumer ça? C'est... c'est quelqu'un, on ne sait pas où c'est les États-Unis, je ne sais pas moi où c'est les États-Unis. Je sais qu'en l'entendant, immédiatement, je veux apprendre l'anglais, je veux comprendre ça. Et voilà. Et à partir de là, j'apprends l'anglais, je deviens très fort en anglais, effectivement.
Think I love you, but I wanna know for sure. Come on and hold me tight. I love you.
You make
Trucks, White Thing. Jean-Paul Curnier, pendant que vous écoutiez cette chanson, vous avez repris vos photos.
Oui, parce qu'il n'y a pas de photographie de l'époque de White Thing. Enfin, c'est à peine 3 ans après, quoi, c'est 66. Mais du temps s'est écoulé, effectivement, entre cette photographie de 62-63, où je n'ai pas encore entendu Slowdown ni Peggy Sue. Je n'ai pas parlé de Peggy Sue, c'est très important. J'ai entendu Peggy Sue à la radio, ça aussi, ça m'a bouleversé. Et j'ai su que j'aurais affaire avec cette musique-là, le rock'n'roll, donc un rock vraiment... D'ailleurs, après, je comprendrais que c'était plus la version Rhythm and Blues à laquelle j'étais sensible, mais ça, l'extinction, je la ferai qu'après. À cette époque, donc, je regarde ça et je regardais à nouveau la photographie. Je me disais que c'est cette figure-là que mon professeur de musique a vu arriver un jour, avec... vraiment maladroitement recopié sur un bout de papier une portée. Et j'avais dû dessiner bien comme il faut la clé de sol, mais sans savoir exactement à quoi ça servait. Mais j'avais réussi, pour me souvenir de cette musique Slowdown et pour pouvoir un jour la jouer, j'avais vaguement réussi un système très approximatif de repérage. Oui, des notations sur une portée, parce que j'avais vu en cours de musique les portées. Bon. Et alors, je n'avais rien fait en cours de musique, comme tous les autres. On était très nuls en musique, on ne s'accrochait pas du tout. Puis on n'envoyait pas les enfants dans les écoles de musique, à l'époque, ni dans les conservatoires, ça n'existait pas. Et alors, j'avais noté donc la phrase qu'on a entendue, la phrase de Slowdown, donc la phrase mélodique de base. Et donc, j'avais réussi à la faire. Je l'ai portée à mon professeur de musique, j'ai dit... Non, pendant que mon professeur de musique n'était pas là, j'ai voulu jouer ça au piano. Et il était derrière. Il est venu me voir et il a dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai dit « Je voudrais trouver l'air que... » Il a regardé. Il m'a dit « Non, tu dois avoir une note ou deux de fausse là-dessus. » Il a corrigé. Puis il a joué tout le morceau sans l'avoir jamais entendu, ce qui était logique. Sur une gamme de blues, il savait ce que c'était. Et j'étais absolument fasciné. Il m'a dit « Si tu veux, tu resteras aux intercours. Je t'apprendrai un petit peu. » Voilà. Alors donc, je regardais ça et puis... Puis on a entendu tout à l'heure donc Wild Thing des Trucks. Alors ça a eu une importance vraiment. Enfin, je veux dire, seulement ce morceau qui a une importance, pas exagéré. Mais il est un peu emblématique de quelque chose dont je parlerai tout à l'heure et d'une époque. Bon, c'est 66-67. Voilà, c'est l'année 66-67. Disons qu'à ce moment-là, quelque chose était effectivement installé avec la musique, quoi. Sans que je le sache vraiment, on essaye de jouer, on est quelques-uns, on est totalement là-dedans, dans cette musique qui vient donc d'Angleterre, et pour petite partie des États-Unis, parce qu'on ne s'intéresse absolument pas à Elvis Presley et tout ça. On s'intéresse essentiellement à Chuck Berry et à des noms qu'on entend comme ça, Muddy Waters, on essaye de comprendre, de trouver, on ne trouve pas. Et j'apprendrai bien plus tard, 20 ou 30 années plus tard, que les Rolling Stones avaient fait pareil 5 ans avant. Ils faisaient la même chose. Ils n'avaient pas de guitare. Ils essayaient de jouer. Ils étaient aussi lamentables que nous et qu'on l'était en 66.
Alors 66. Nous, c'est le petit groupe que vous créez et qui va s'appeler les Humbles. Alors ça, c'est un drôle de nom quand même pour un groupe qui est quoi, qui est rock, qui se veut.
En fait, c'est pas moi qui ai créé les Humbles. C'est drôle, ça, parce que sinon, on pourrait penser que c'est vraiment une obsession chez moi, à peine perdu, moins que rien, les Humbles, le désordre des tranquilles. C'est vrai que les tranquilles, c'est les Humbles. Je sais pas, les choses sont faites comme ça et me ravissent de la façon qu'elles sont faites dans l'existence, quelquefois. Ce qui se passe, c'est que c'est vraiment plus fort que moi, et surtout la guitare basse, parce que c'est justement cette espèce d'instrument-là, cette espèce de scansion. Scansion un peu physique, quoi, qui me submerge. Alors, je fais les vendanges, parce qu'on fait ça là-bas, on fait les fruits au mois de juillet, donc on ramasse les pommes, les fraises, les melons près d'Arles. Et puis, à la rentrée, on fait les vendanges. Avec ça, on a 4 sous, et si on arrive à se faire encore un peu aider, on peut acheter une guitare électrique. Et je n'avais que ça dans la tête, de toute façon, acheter une guitare basse.
Alors parce qu'au départ, vous aviez une mandoline, et vous avez joué Satisfaction. Oui. Sur une mandoline.
Alors ça, c'était pas le groupe Les Humbles.
La version arlésienne.
Oui, c'était une mandoline distorsion, faut ajouter ça. C'est-à-dire avec un micro de téléphone ramassé dans je ne sais quelle poubelle, avec 2 fils, et tout ça mis sur un pick-up Schneider. Donc ça donnait une distorsion, et ça nous permettait de trouver un son de distorsion. Enfin, ça nous permettait de nous mettre sur la voie, quoi. Bon, d'accord, c'était que le début, mais on avait passé le... On arrivait à faire des notes. Alors, quand je dis on, c'est des copains de lycée, ça. Les Humbles ne sont pas un groupe du lycée, c'est encore plus fort, c'est encore plus important, c'est un vrai groupe. Ce n'est pas des copains de lycée qui font un groupe. C'est un groupe qui existe depuis à peu près 15 jours, 3 semaines à Arles, et qui se produit une fois ou deux. Et puis voilà, il cherche un bassiste. Et moi, j'ai acheté une guitare basse. Et puis voilà, je suis devenu bassiste sans groupe. Ils l'apprennent parce qu'ils cherchent un bassiste. Et voilà, puis ça fait tilt, quoi. Donc tout de suite, on commence à travailler ensemble. Et notre morceau fétiche, c'est Wild Thing. Voilà. Un an après, il sera enregistré par Hendrix. Ça va nous faire un drôle d'effet parce que, évidemment, on ne fait pas tout à fait ce que fait Hendrix, on peut s'en douter. Mais on est très carré. Alors, on produit des choses assez impressionnantes pour les gens de notre âge qui viennent nous écouter parce qu'on met beaucoup de ressorts de sommier sur la scène et énormément de choses qu'on ramasse dans les poubelles publiques, donc dans les décharges publiques, pardon. Donc, je me rappelle, bon, des morceaux de lit, des trucs cabossés, de la ferraille, des boulons. C'était le décor sur scène. On évoluait là au milieu, on avait des cheveux assez longs. Et voilà, qu'on était très, très sauvages. Mais ces accords-là, on les vivait. Bon, il n'y en a que trois dans Wild Thing. Mais on les vivait profondément. Et c'était ça qui passait, sans doute, ce qui fait que, localement, il y a eu une sorte de légende, comme ça, des humbles. On avait la chance que le père donc, des trois frères, qui constituait les humbles avec moi, avait construit une maison et donc il avait fait un grand garage qui servait à rien du tout et qui n'était même pas crépi, mais dans lequel on pouvait faire le maximum de bruit. Et donc on s'en donnait à cœur joie, il y avait donc tout le matériel, une batterie, deux amplificateurs. Et on jouait tant qu'on pouvait, après on regardait la télé, voilà. Et on remangeait en général, puis après j'allais au lycée le lendemain. Mais voilà, j'avais deux vies, quoi. Puis après on a joué quand même en concert, on a fait des choses importantes, comme ça, enfin belles, quoi. Pour nous, très belles.
La télé, mais le cinéma aussi.
Le cinéma, ça va commencer juste à ce moment-là.
Pierrot le Fou.
Je vais faire une petite... Avant Pierrot le Fou, qui est une chose merveilleuse, et avant cette épopée, il y a quelque chose de très étrange dans le cinéma. J'étais à l'école primaire, dans une école qui s'appelle l'école Léon Blum, et qui avait été construite pendant la reconstruction d'art, c'est-à-dire donc en 1946-1947, sans doute. Donc elle était absolument neuve quand je suis allé à l'école communale. Et il y avait une chose très avant-gardiste dans cette école. Enfin, il y en avait plusieurs. Il y avait d'abord une grosse grenouille en mosaïque. Et puis, on avait un professeur de dessin qui était extraordinaire, qui habitait là, et qui était un ami de Picasso et de Léo Ferré. Enfin, un type vraiment étonnant, qui a d'ailleurs beaucoup compté pour nous tous. Enfin, pour tous. Quand je dis nous tous, il y a un nous arlésien, enfin, dont je ne dirais pas forcément tous les noms, mais enfin, avec qui je vis comme une sorte de fraternité, quoi, de communauté de mise à la vie, si on peut dire. Voilà. Ensemble, on a été mis à la vie, donc dans les années 60 et tout ça. Et donc, dans cette école Léon Blum, il y avait, le jeudi matin, des séances de cinéma pour tous les enfants, à condition qu'on ait un petit ticket cinéma. Mais c'était gratuit. Et alors, c'est drôle parce que je devais avoir 8 ans, 9 ans, et j'ai vu Les Neiges du Kilimandjaro. Voilà. Et c'est pas du tout un film pour mon âge.
Gregory Peck.
Oui.
Ava Gardner.
Avec, je crois, Ava Gardner. Et c'est évidemment un texte d'Hemingway. Et ça part de la guerre d'Espagne. Et c'est important parce que, bon, Arles, c'est un endroit où il y a beaucoup de réfugiés de la guerre d'Espagne, des réfugiés anarchistes, communistes, mais surtout anarchistes. Enfin, pour la plupart, en tout cas. Donc, des combattants de la guerre d'Espagne, soit quelques-uns du POUM, d'ailleurs. Assez peu, mais beaucoup de la CNTFI. Et ces gens-là sont des gens parfaitement estimables, estimés, parce que bon, Arles, en plus, c'est une ville communiste, traditionnellement communiste. Mais bon, au moins en France, si les communistes ne sont pas comportés tout à fait comme ils sont comportés en Espagne, ils ont de l'admiration pour les combattants anarchistes, etc. Donc, les choses se passent plutôt bien, au moins de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, les frères Angosto, dont je parlais tout à l'heure, les humbles, donc avec moi, était également donc fils de combattant de réfugiés de la guerre d'Espagne. Et donc, qu'est-ce que je vois dans ce film? Eh bien, il est question de cette chose qui, même enfant pour moi, est totalement, comment dire, naturelle, dont on parle tout le temps, qui est la guerre d'Espagne. Alors, pour les uns, c'est-à-dire pour ma famille, où il y a beaucoup de militants révolutionnaires, c'était donc une révolution ratée, mais en même temps, comme dans ma famille, il y avait aussi les mêmes clivages qu'en Espagne, c'est-à-dire entre le courant libertaire, plutôt poum, quoi, et le courant communiste. Évidemment, les disputes m'avaient plongé très tôt dans la vérité de ce qu'avait été aussi l'échec de la révolution espagnole, et pas seulement de la République espagnole, mais de la révolution qui était en cours. Dans ce film, je vois qu'il s'agit de sensualité. C'est très important pour moi, ça, parce que ça le sort encore beaucoup plus par la suite. Quelque chose est fondamentalement, chez Hemingway, évidemment lié à la guerre d'Espagne, c'est la sensualité, la volupté. Et dans ce film, où il y a le souvenir de cette femme, donc de cette femme espagnole, il n'est question que de la volupté, alors que cet homme crève avec sa gangrène dans les jambes et les vautours qui attendent.
Qui rôdent.
Voilà. Et ce n'est pas tant les vautours dont j'ai retenu l'image, bien qu'ayant à peu près 8 ou 9 ans, c'est l'histoire de la volupté et de la révolution. Et pour moi, ça sera vraiment fondamental, et même maintenant encore plus qu'auparavant. Parce que je pense que c'est une des figures majeures de la question révolutionnaire, c'est la volupté. Y compris donc les femmes, les hommes, enfin, ce rapport à la fois sensuel, sexuel, à l'insurrection, et ce rapport de bonheur qui ne veut pas nécessairement comme issue des institutions.
Mais la volupté totale de la révolte et pas la morale.
Oui, puis la volupté, y compris la volupté entre les êtres. Pas seulement que la volupté de la révolte, qui serait presque un peu stalinien, où on jouirait simplement du désordre. Non, mais de ce qui se crée, justement, à la faveur de ce désordre, de nouveau, d'inespéré, même d'inattendu, d'impensable entre les êtres.
Une autre volupté, une autre révolte, celle de Pierre Houlfou.
Alors voilà, ça va être autre chose.
Des apparences.
Comme un miroir.
J'ai vu le café où Van Gogh, un soir terrible, a décidé de se couper l'oreille.
Compère, vous montez. Compère, qu'as-tu vu?
J'ai vu.
Regarde, Pierrot, une Ford Galaxy. Je
m'appelle Ferdinand. Oui, c'est une 62.
Montre que tu es un homme.
Attends, je termine. Après avoir bouffé pas mal de kilomètres, ils arrivèrent en vue du désert de Bayonda, qu'il devait traverser avant d'atteindre Khartoum. Zut, ça manque d'ombrage, maugréaient les pieds nickelés en s'aventurant dans cette plaine de sable sous un soleil de feu. On serait bien mieux à l'ombre d'une demi-brune sans faux col et bien tassée.
Décide-toi, sinon j'ai fait du stop toute seule.
Bon, allons-y, allons-o.
Allons-y, allons-o. Jean-Paul Coeur.
Oui, c'est très, très émouvant d'entendre ça et de revoir presque les images, rien qu'en ayant le son. Alors ça, c'est une autre chose. Il y a tous ces garçons donc réveillés par le rock'n'roll ou le rock, mais surtout réveillés par quelque chose qui appartient à leur génération, qui appartient à leur façon d'être, à cette désintimidation dont je parlais, c'est-à-dire qu'on va sortir d'un monde assoupi entre le Parti communiste, la droite, enfin tout ça est vraiment vieux, quoi, vraiment vieux, et on sent bien que tout ça parle au nom de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qui est une vitalité qu'on ne connaît pas non plus, mais dont on pressent sans doute une forme de puissance, et on la sent un peu plus, donc je le disais tout à l'heure. Et alors ces quelques-uns là, donc ceux qui ont, avec moi, vers les années 64, découvert les Rolling Stones, parce que ça compte, il y a les Beatles, avec cette intelligence prodigieuse des Beatles, cette espèce d'aventure mélodique, d'aventure heureuse, qui sont les grands frères, et puis il y a les autres grands frères, les mauvais, les méchants, mais qui nous ressemblent aussi, pour l'autre partie.
Ils c'est sont qui, partie. Les mauvais, les méchants?
C'est les Rolling Stones. Et les Rolling Stones sont merveilleux aussi, c'est quand même, c'est grandiose, quoi. Et c'est étrange parce
que... Ils se partagent un peu le...
Ils sont un peu nos deux facettes, alors c'est drôle parce que le commerce, évidemment, lutte. À l'époque, les producteurs de disques des Beatles pensent qu'il n'y a la place que pour un groupe, donc il faut faire la guerre à l'autre groupe. Ils n'ont pas encore compris que...
Il y a la place à la fois pour le cœur et le sexe.
Et puis que ça allait être une déferlante terrible, et qu'effectivement, c'est le cœur, le sexe, et après, ça sera la métaphysique, bon, tout, avec d'autres groupes qui apparaîtront. Mais que ça ne peut pas être comme ça. Et nous, de toute façon, on n'est même pas partagés. On vit ça, c'est vraiment... Et justement, voilà, on est quelques-uns à fréquenter les cinémas et les ciné-clubs en pratiquement 66. Et en même temps, d'ailleurs, à commencer à vouloir militer contre la guerre du Vietnam. Comme ça, comment les choses se font? Bon, évidemment, moi, je suis dans un environnement plutôt politique, mais qui est justement plutôt stalinien. Donc, c'est pas du tout ça. Moi, c'est par rapport à d'autres attirances que je vais être dans les comités Vietnam et ensuite plutôt dans les groupes plutôt libertaires, quoi. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on va voir le cinéma. Et on voit quelques films. On voit, par exemple, Ensemble, on est toujours ensemble. On est 5-6 hein, de ce lycée... à écouter les Stones comme des dingues, à chercher des disques, des livres. Et ensuite, donc, à vouloir aller au cinéma, ce qui n'est plus d'aller voir des péplums, comme parfois on allait, ou des westerns, mais le vrai cinéma dont on parle, c'est-à-dire qu'on veut changer de peau, entrer dans une époque. Et alors, donc, par exemple, je me souviens parfaitement de « Je t'aime ».
D'Alain René.
Oui, de « Qui a peur de Virginia Woolf ». Et puis, je vais tomber sur cette chose extraordinaire qui est le cinéma de Godard, c'est-à-dire, enfin, pour moi, extraordinaire, parce que, d'abord, on est 5 dans la salle, mais j'ai constaté il y a 20 ans que... Donc ça, c'était il y a très longtemps, mais non, il n'y a pas tant de temps. Il y a 10 ans, j'ai constaté qu'à Marseille, dans une salle, on était encore 6 pour voir un film de Godard.
Ah, il y a un progrès, quand même.
Donc je vois que quand même, ça ne change pas, quoi. Et peut-être même, c'est bien, d'une certaine façon, si ça doit créer des élans de profonde reconnaissance par rapport à quelque chose qui n'est pas fait pour les masses, comme il le dit si bien lui-même. Il n'y a que les dictateurs qui font les choses pour les masses. Mais pour peut-être avoir mis des images, des sons, des mots. Alors avant, il y avait la littérature, il y avait la musique. Et voilà qu'on vient d'entendre ce passage « Allons-y, allons-o », archi-célèbre. Mais il y a quelque chose de très très fort qui se produit dans ce film, comme dans d'autres films de Godard. Mais dans celui-ci, précisément, pour moi, il y a quelque chose qui vient d'être chiffré, c'est-à-dire qui vient de recevoir son nom, son chiffre, sa façon d'être. C'est qu'entre les garçons et les filles, ça ne sera plus comme avant. Ça ne sera pas triste comme papa et maman. Ça ne sera pas, puisqu'on s'est embrassé sur la bouche, on va devenir sérieux, on va se marier. C'est un jeu. Être garçon et fille, ça va être à la fois sexuel, un jeu, une aventure, une dérive. Et ça, on le doit à Godard. Après Godard, ça sera plus possible d'être crétin à deux. Ou alors il faudra le faire exprès, quoi. Bien sûr qu'il y en aura des tas d'imbéciles. Mais la voie aura été ouverte, il aura donné une chose extraordinaire qui est, on peut être garçon et fille,
autrement,
vivre d'amour, de sexualité, de dérive et de jeu. De s'amuser entre garçons et filles. Ce qui est une chose, mais qui n'a jamais existé avant. Jamais. Même dans les chansons des Beatles, ça n'est pas encore ça.
Vous nous dites juste un mot du rôle que vous avez joué dans le dernier film de Godard. Juste un mot.
Le mien.
C'est-à-dire Jean-Paul Kernier.
Oui. Oui, Jean-Luc Godard, ayant lu, alors qu'on ne se connaissait pas, ayant lu un texte que j'ai écrit dans une revue qui s'appelle Ligne. Un texte sur la guerre actuelle, sur l'état actuel du monde. L'a lu, donc voilà, a contacté Léo Cher, qui est également
votre éditeur.
Éditeur, oui. Puis,
oui.
Voilà.
Ami.
Et mon ami. Et bon, et,
avec qui vous avez fondé d'ailleurs la maison d'édition.
Et alors donc, j'ai rencontré Jean-Luc Godard, j'étais évidemment extrêmement charmé et qu'on se rencontre, ça me ramenait à ces années-là, ça me ramenait à La Chinoise que j'ai vue par la suite, à Weekend que j'ai vu, pour lequel j'ai ri énormément, la décentralisation culturelle vue par Godard dans Weekend, mais c'est extraordinairement drôle, c'est ça qu'il faut montrer pendant la question des intermittents, mais c'est extraordinairement drôle, c'est d'une vivacité, d'une pugnacité, ce type qui joue du piano dans une cour de ferme avec les tracteurs qui passent, c'est merveilleux de critique en quelques flashs comme ça. Oui, vraiment, j'étais content de pouvoir tourner dans un film pareil, parce que d'ordinaire, je me refuse à tourner dans les films, ou en tout cas, apparaître dans les télévisions. Je pense que l'image est une chose qu'on traite un peu mal. Mais je pense que Godard l'a traité très, très bien. Donc, c'est pourquoi j'étais heureux qu'il m'en fasse la proposition et de lui dire oui, j'accepte de tourner dans ce film.
Jean-Paul Kernier, autour de vous, encore beaucoup, beaucoup de disques qu'on n'aura pas le temps d'écouter et des livres dont on n'aura pas le temps de parler aussi longtemps que vous le souhaitez, sans doute. Mais tout de même, avant de nous quitter, cet exemplaire de la nausée, vieux livre de poche qui a dû souffrir.
Oui, j'avais amené des livres qui me semblent, dont je sais qu'ils ont été extrêmement importants, mais qui me semblent encore présents dans ce que je fais, et plus que ce que j'ai imaginé. Par exemple, j'ai relu La nausée, pour tout dire, avant-hier et hier, et j'ai trouvé absolument remarquable ce qui était à l'intérieur, l'écriture de Sartre, l'espèce de force qu'il y avait à présenter un drame qui est intérieur. Par exemple, la scène finale ou pré-finale des deux gamins dans la bibliothèque qui poussent au dévoilement de l'homosexualité de l'autodidacte, et ça va se terminer de manière ignoble et dans la honte du narrateur. C'est absolument magnifique. C'est vraiment extrêmement fort. Et quand on a 15 ans et qu'on lit ça, on apprend sa propre méchanceté, mais on apprend la littérature aussi. Lorenzaccio, qui a été extrêmement important pour moi, et dont on peut dire, enfin Chatterton, puis Lorenzaccio, puis Les Caves du Vatican, de Gide, évidemment, l'Afcadio, l'assassin gratuit, sans motif, mais aussi parce qu'il y a là une forme de souveraineté, de grâce dans l'écriture qui me conduira très vite, avec mes amis du collège dont je parlais, du lycée, vers Kafka, vers Proust, vers la littérature. Et il se trouve qu'il y aura donc la musique dont on a parlé, le cinéma dont on a parlé, et la littérature qui occupe une place très importante. Mais là, bon, c'est vrai que c'est délicat, lire des passages, c'est pas comme la musique qu'on est obligé de lire longtemps. Et il faudrait parler de beaucoup de livres. Donc, je parlais de Lorenzaccio, de La Nausée, de Sartre que j'ai amené.
Vous aviez aussi Le Corbeau de Poe.
Le Corbeau d'Edgar Poe, qui a été fondamental pour moi, la lecture d'Edgar Poe, jusqu'à le lire en anglais même à l'époque, tellement ça me paraissait très fort. Et lire donc la genèse d'un poème en anglais, et même être un peu en désaccord avec la traduction de Baudelaire, que je trouvais un peu lourde, qu'il aurait fallu alléger plus.
Et vous avez fait votre propre traduction.
Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est une traduction à moi. Oui. Oh, elle n'est pas très très différente, mais bon, je cherchais plus de rythme dedans, plus de rythme, plus de cette façon que Edgar Poe a de dire « et ceci, et cela, et je dormais encore, et, jusqu'à un essoufflement, nevermore ».
Before I get old,
talking about my generation.
It's my generation. It's my generation, baby. Why don't you all
talking
fade away?
About my generation.
Don't you dig what we all
said?
I'm trying to cause a big talking sensation.
Talking about my generation.
Les Who, Jean-Paul Cornier, les Who, My Generation.
Oui. Mais oui, les Who, c'est aussi John Entwistle, le bassiste des Who. Je crois que j'ai continué à écrire avec cette musique dans la tête, de toute façon. Même si je ne l'aperçois pas, pas seulement la musique des Who, mais cette musique qu'on a appelée par la suite le rock expérimental ou le rock progressif, et dont 68 va marquer quand même. Donc, plusieurs choses. 67 avec effectivement Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band des Beatles, mais peut-être surtout pour moi l'apparition de Soft Machine et de la musique de Robert Wyatt qui est quelque chose d'absolument extraordinaire. Même encore aujourd'hui, je veux dire, les derniers disques de Robert Wyatt, je ne parle pas seulement de Rock Bottom qui était une pure merveille, mais même les derniers disques sont vraiment des merveilles, des choses qu'il faut écouter, qui sont plus savantes et plus légères que la musique légère et savante réunie.
Merci Jean-Paul Cornier. C'était Affinité élective, une émission de Francesca Isidori préparée avec l'aide de Fabien Pourcher, à la technique Serge Restic, réalisation François Connac. Je vous laisse en compagnie de Francesca Piolo tout de suite après Poésie sur parole.